Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, on va parler des plantes aromatiques.
L'origan, c'est Origanum vulgare. Et la marjolaine, c'est Origanum majorana.
Ça sent jusqu'ici, c'est incroyable.
Deux plantes aromatiques qui se ressemblent et qui sont souvent confondues, que l'on peut associer parce qu'elles s'utilisent un petit peu de la même façon. Ce sont des plantes qui accompagnent traditionnellement la pizza.
Ça, c'est l'origan. C'est un peu comme notre herbe de Provence. Voilà, on va utiliser avec les sauces tomates, les viandes, bien sûr la salade grecque et sur la feta.
C'est une super plante. Elle reste très intéressante, même séchée.
Oui, assieds-toi, Lucien. Je te prépare une belle omelette aux fines herbes. Tu vas te régaler.
Merci.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur le plateau dont on va déguster une émission entière sur l'origan. Si, si, c'est possible. On va même vous montrer comment cette herbe séchée qu'on ne trouve en France que saupoudrée sur les mauvaises pizzas est ailleurs, en Méditerranée, une véritable religion avec ses rites, ses mythes, ses usages médicinaux et ses fabuleuses recettes. On voyage aujourd'hui avec nos deux invités dans les paysages et les assiettes du sud de l'Italie, de la Grèce, du nord de l'Afrique, à la découverte de cette plante sacrée, Alessandra Pierini.
Bonjour. Bonjour à tous.
Vous nous aviez manqué.
C'est avec plaisir que je suis là à nouveau.
L'origan, 10 façons de le préparer, c'est le livre que vous avez publié au printemps dernier aux éditions de l'Épure. Ça fait un moment que vous entretenez une relation très intime avec l'origano, hein, c'est comme ça, hein,
l'origano.
Vous allez nous raconter sa cueillette, ses traditions culinaires en Sicile, dans le sud de la botte, et vous allez nous faire goûter des recettes étonnantes. J'ai entendu parler d'un dessert à l'origan.
Oui, une tarte au poire et à l'origan. C'est moi qui l'ai inventée parce que ce sont deux parfums que je trouve qui se marient parfaitement bien.
Une tarte, c'est même un bon gros gâteau bien joufflu, bien moelleux. Il nous fait de l'œil dans nos assiettes, on va se régaler. Et notre deuxième invité, c'est Samir Ouriagli. Bonjour Samir.
Je vais vous dire plutôt Kalimera ou Konnichiwa.
Ah ouais, alors là on est au Japon, on est en Grèce.
Exactement. Je
pense que l'origan est universel.
Et je vous dirai plus tard dans l'émission pourquoi.
Ah carrément.
On va parler de Grèce et de Japon.
Suspense, mystère, énigme. Vous avez fondé encore la première marque d'épices 100% française. Vous avez beaucoup de succès sur la scène gastronomique et culinaire. Vos épices sont de très belle qualité, exclusivement françaises. On va voir d'ailleurs s'il y a de l'origan en France. C'est tout le défi qu'on vous a lancé, cher Samir. Et vous avez investigué sur nous, pour nous. Non pas sur nous, hein, mais pour nous, sur l'origan, ses espèces, ses arômes, ses terroirs, et puis aussi quelques recettes à la clé. Il y en a absolument partout sur le plateau aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des parfums d'origan totalement envoûtants qui se sont emparés du studio 521 dans les fauteuils des chroniqueurs et chroniqueuses Zazie Tavitian, Dominique Hutin. Salut les copains.
Salut.
Hello.
Zazie.
Bonjour.
Alors moi je vais vous parler aussi d'origan et de marjolaine, mais sous forme liquide.
Ouais, et je crois même qu'on va faire un pas de côté, car on va s'éloigner un peu de la Méditerranée. Dominique.
Mais moi je vais explorer le versant médicinal, pour changer, de l'origan.
Mm-hmm.
Je vais vous faire une petite ordonnance avec le vin qui va avec pour l'accompagner.
Et
oui, on va aller le cueillir du côté de Toulouse.
Une prescription à base de vin du côté de Toulouse. Moi j'ai ma petite idée, et puis si vous voulez à la maison nous faire signe pour une réaction, une question, un tour de main autour de l'origan, notre mail, on va déguster à radiofrance.com, le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. On va déguster sur les ondes, mais aussi on va déguster en ligne nos émissions, nos podcasts, nos chroniques, nos recettes, nos bons plans, nos actus, bref, tout ça c'est sur franceinter.fr à la page. On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de mettre le cap sur la Méditerranée pour évoquer l'origan, je vous emmène pour un coup de cœur complètement à l'ouest, direction la capitale de la Bretagne, Rennes. Je vais, un samedi matin, faire mes courses au marché des Lys, qui est objectivement, hein, sans parti pris, l'un des plus beaux et l'un des plus riches marchés de France. J'adore ce marché, le marché des Lys. Eh bien, je descends légèrement au bas de ce marché, et je pars en direction de la place de Bretagne, et je tombe sur, là, attention, Mirlitentouille. La Mirlitentouille, c'est à l'origine un lieu-dit, dans le 22, Côte d'Armor, fortement lié d'ailleurs à l'histoire des chouans en Bretagne, et c'est désormais le nom d'un super bistrot au charme ravageur, un bistrot populaire, gouailleur, vivant, comme vous l'aimeriez vraiment, Dominique et Zazie, c'est exactement votre style. Ambiancé par Simon Como en salle, Yann-Éric Toutain en cuisine, deux bretons trentenaires qui ont travaillé dans des hauts lieux de la scène parisienne et qui reviennent au pays pour raconter leur histoire. Et quelle histoire ! Simon et le chef Yann-Éric nous la racontent au micro dont on va déguster.
On a monté ce bistrot-là il y a 3 ans avec Yann-Éric, et puis maintenant on a une équipe de 10 avec nous. C'est une belle aventure.
Moi, je suis né à Fougères et pas à Rennes. Et à Fougères, si t'as pas vu Fougères, t'as rien vu. Voilà. La carte, du coup, on travaille qu'en direct sur quasiment 90% de nos produits, sauf sur les abats où je voulais passer par un grossiste pour des traçabilités. On a de la coque ramassée à pied au Croisic, on a de la Saint-Jacques de Huelga pêchée à Saint-Malo, le bœuf est en direct à RC Prélifré, le veau pareil, RC Prélifré. Et moi ce que j'aime c'est faire du gras avec de la fraîcheur. Aujourd'hui, l'autre outil sur l'arête, coque, topinambour et bouillon, avec une extraction de topinambour pour le bouillon. Cœur et foie d'agneau en persillade, il y en a très très peu, mais quand il y en a, on est content. Il n'y a que 6 portions toutes les semaines. Riz de veau, c'est important parce qu'on en vend beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. Et les filochets de cochon, ça te permet d'être pas dans la merde pendant le service quand il y a beaucoup de monde. En moyenne, il y a 2 plats, une entrée qui change tous les jours.
Pour moi, la vraie réussite de ce bistrot, c'est qu'on a réussi à mélanger les générations, mélanger les genres. C'est-à-dire qu'on est un midi ici, on peut aussi bien avoir un couple de retraités, des travailleurs, on a des notaires. Les gens arrivent à se mélanger. Et ça, pour moi, c'est la vraie réussite. Et c'est ce qui fait qu'un bistrot, il marche et qu'un bistrot, il a une âme. C'est que les gens, ils viennent et puis à un moment, on laisse sa veste au vestiaire et puis on vient passer un moment, quoi. C'est-à-dire qu'on peut venir ici manger une saucisse purée, comme à la Mierlitentouille, en fait. Ce lieu-dit, il était au carrefour de deux villages. Il y avait 4 bistrots.
Les gens, ils n'arrivent pas à le retenir et ça, c'est génial. C'est soit la Mirli, soit la Tantouille, soit la Mirli Tambouille, tout ça, et voilà. En fait, Tantouille, ça fait penser aussi à Tambouille et le fait de cuisiner, d'avoir des gamelles, des ragoûts et tout ça, quoi. Voilà.
La Mirli Tantouille, bah, que vous avez le droit de rebaptiser la Mirli Tambouille, si vous avez envie. Et en parlant de Tambouille, l'Ardoise propose des assiettes qui n'ont d'autre ambition que de nourrir bien avec des plats justes, des produits bons et bretons et des prix super gentils. Tellement gentils qu'il y a même au déjeuner une formule entrée plus plat plus dessert à 19€ avec que des, encore une fois, des très belles ressources. Vendredi, juste avant-hier, il y avait en entrée à l'Ardoise salade de tomates et ricotta fumée ou brandade de haddock. En plat, il y avait du thon rouge de ligne polenta et vierge avec une vierge tomate sarrasin ou bien rôti de cochon, purée de patates et jus à la moutarde. Comme quoi, on peut même avoir le choix dans un menu à 19€ entrée plat dessert et en dessert, c'était mousse au chocolat ou crème brûlée. Pas de carte des vins, là je me tourne vers Dominique Hutin, mais un petit cellier où l'on peut venir choisir ses bouteilles. C'est le client qui y va, il n'y a que du bon, tout ce que vous aimez, une 60aine de rouges, une 40aine de blancs et des signatures qu'on aime comme Alex Foyard, Côte de Brouilly en Beaujolais,
oui.
Jean-François Nic, les Foulards Rouges.
Oui, très bien. Et on paye au bouchon, c'est un prix caviste, c'est un prix...
C'est des prix très intéressants. J'ai pas la carte des prix en détail, mais je peux vous assurer qu'ils font des efforts. Il y a les Vézelay aussi, des Montanais père et fils, domaine de la Cadette. Faut vraiment vous attabler à la Mirli Tantouille si vous passez par Rennes ou si vous avez la chance d'y habiter. 12 rue Nantaise, c'est fermé le dimanche et lundi, mais ça réouvre dès mardi. Et vous avez même le droit de passer le bonjour à Simon, Yann-Éric, mais aussi Alban, Victor, Louis, Jean-Pascal, tous ces jeunes qui sont copains dans la vie et qui travaillent ensemble dans la joie et la bonne humeur. Un bonjour de la part évidemment d'On va déguster. Je suis sûr que Zazie a dansé sur Despecha de l'artiste catalane Rosalia cet été, non ?
Oui, je vous ai vu danser aussi un peu pendant la chanson, François Régis.
Choisi évidemment par notre programmateur musical Djoubacar, on part en Méditerranée pour cultiver et cuisiner l'origan.
On va déguster sur France Inter.
À la fin de l'été, les étals des marchés du sud de l'Italie en sont chargés. Tassé en tagette, un bouquet suspendu ou égrené dans des pots. Les routes se parfument et les montagnes en sont riches. Pour le ramasser, il suffit de s'aventurer à travers la nature sauvage qui nous fait nous sentir seuls au monde. C'est autour du mont Pollino, en Calabre, et sur les flancs des monti Iblei, en Sicile, que j'ai ramassé le plus parfumé. Une plante robuste, vivace, aux tiges rougeâtres, menues et ligneuses, qui porte de petites feuilles vertes, velues, odorantes, aux joyeuses notes poivrées et légèrement amères. Dans ces régions, il est coutume encore aujourd'hui que les paysans accueillent les invités avec un bouquet d'origan comme symbole de joie et de paix.
C'était un extrait de l'introduction de votre livre, chère Alessandra, l'origan, 10 façons de le préparer aux éditions de l'Épure. Vous en êtes au combienième volume chez...
Au 12e.
C'est ça, vous avez fait le citron, la polenta.
La polenta, la fleur d'oranger.
Absolument.
Enfin, toutes les choses que j'aime, j'essaye d'en parler dans ces livres que j'adore.
Et là, vous nous téléportez dans les collines et les montagnes de Sicile, de Calabre, du sud de l'Italie, car, alors on va le préciser d'emblée, le berceau de l'origan, ne serait-ce que par son étymologie, c'est la montagne.
C'est la montagne, c'est tout le bassin méditerranéen, mais aussi vraiment son nom indique merveille des montagnes. Ça vient du grec oros, qui veut dire montagne, et ganos, éclat, soleil, merveille. Donc cette merveille de montagne qu'on trouve donc à partir déjà des collines, et ça monte jusqu'à 1200 mètres d'altitude et même au-delà, et qui fleurit entre la fin de l'été, enfin la fin du printemps pardon, et jusqu'à la fin de l'été, donc nous sommes encore en saison de cueillette, et qui ce sont des petits arbustes qui sont un buisson et qui mesurent entre 25 et 30 cm d'hauteur, et ça fait des petites fleurettes qui vont du blanc au rose un peu plus chargé, et ce sont ces petites fleurs en fait qui colorent aussi les paysages, et souvent l'origan pousse aussi au pied des oliviers, dont ils partagent un peu le terrain et la géographie.
Et puis attendez, dans l'assiette, origan et huile d'olive, en général, on va le voir, ça se passe très bien.
Oui, c'est l'accord personnellement que je trouve le plus réussi. C'est l'huile d'olive, en fait, qui le relève, qui lui donne de la vie.
Le climat méditerranéen lui va très bien au thym.
Très bien, absolument, c'est un jeu de mots.
Je l'avais pas, mais...
Et surtout parce que l'origan adore le soleil, adore les zones rocailleuses, les sols argileux, et plus il fait chaud, plus il est parfumé, plus son arôme est intense. Il aime bien sûr donc pousser dans ces endroits où il y a beaucoup de sécheresse. Et d'ailleurs, pour le cueillir, il faut attendre une longue période de sécheresse pour qu'il ait un maximum d'arôme, d'huile essentielle, donc concentrée surtout dans les fleurs.
Car on va le voir qu'on le préfère souvent sec.
Souvent sec, frais aussi, on peut l'utiliser. Il sera un peu plus délicat, mais sec, c'est très facile de le garder. On va essayer de le ramasser et de le mettre à l'abri de la lumière et de le faire sécher en branche de préférence. Et ensuite, on peut le garder dans un sac en papier ou mettre dans des petits pots en verre.
Samir, quand je vous ai demandé de tenter de me définir le parfum de l'origan, évidemment, on va tenter de l'approcher, c'est très complexe, c'est compliqué. Vous en êtes un peu sorti par une pirouette. Et vous m'avez dit, ça sent l'été. Merci.
Ben, oui, en fait, enfin une pirouette. Non, mais c'est vrai que c'est un peu, il y a un côté tourbillon d'ivresse estivale pour moi dans l'Origan. C'est vraiment le souvenir qu'on a dans la poche après l'été, qu'on aura toute l'année, en fait, dans nos assiettes, ce petit rayon de soleil. L'Origan, c'est à la fois, enfin, c'est une aromatique extrêmement agréable, qui se rapproche un peu du thym. Également un peu de la menthe. Il y a un léger côté poivré, un côté une douce amertume aussi. Quelque chose de vraiment d'à la fois gaillard, rustique, vigoureux. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime bien, l'Origan, oui, c'est encore une fois ce petit côté ensoleillé.
Et attendez, il y a aussi de la fraîcheur. Alors évidemment, on va survoler les différents terroirs de l'Origan et tout dépend des espèces, mais il y a aussi de temps en temps ces notes un peu mentholées, il y a des notes animales, enfin c'est vraiment épicé, d'une complexité absolue, c'est ce qui fait son succès.
Tout à fait, c'est ça qui fait son succès, l'énorme variété aussi, toutes les espèces qui rappellent surtout le terroir où ils poussent, et surtout on va chercher selon ce qu'on doit faire en fait de cette plante, qu'on utilise aussi bien en cuisine, mais qu'on fait aussi, c'est une plante médicinale. On en faisait aussi de la magie parce que c'était une plante sacrée auprès des anciens Grecs, des anciens Romains. Et donc, selon là où on va la chercher, elle donne le mieux d'elle-même. Mais elle peut être aussi un peu plus délicate et âcre aussi
Tentons
dans ses parfums.
D'approcher justement les origines botaniques de l'Origan, parce qu'on a tendance, sans jeu de mots, à y perdre son latin. Thym, marjolaine, origan, on s'en mêle les pinceaux, il y a du confusion. Même certains botanistes et certains pépiniéristes n'y voient pas toujours très clair. On va au moins s'entendre sur une chose, cher Samir, c'est que l'origan, ça fait partie d'une grande famille botanique.
Ça fait partie effectivement d'une famille dont on entend souvent parler ici à France. On va déguster sur France Inter. Les lamiacées.
Oui, vous étiez venu nous parler de thym déjà.
De thym, les lamiacées, c'est également le basilic, la menthe, en fait, la sauge, en fait, et toutes ces herbes qui sont extrêmement expressives, qui sont un plein trop, c'est une bouffée, en fait, d'huile essentielle. Et l'origan fait partie. Et vous avez tout à fait raison. On s'y perd un peu avec l'origan, avec l'origanum. C'est plus un, au lieu d'origanum vulgaré, c'est plus un capharnaüm vulgaré, moi, je dirais. parce que c'est extrêmement complexe. Ouais. On peut, en fonction des personnes qu'on va interroger, qu'on va contacter, que ce soit des producteurs, des cueilleurs, des pépiniéristes, en fait, ça va dans plein de sens différents. Et vraiment, on s'y perd. Mais justement, là, on est là aujourd'hui pour un peu éclaircir tout ça.
Alors, essayons déjà, peut-être, de définir quelques espèces. On va en définir quatre, Alessandra, si vous voulez bien, parce que ça correspond à des origines, des traditions, des terroirs différents en Méditerranée.
Tout à fait. On va parler de l'origanum vulgare, c'est l'origanum commun. C'est celui qu'on trouve surtout dans le sud de la France et dans le nord de l'Italie.
Car, bonne nouvelle, l'origan pousse dans le sud de la France.
Pousse,
hein.
Oui, j'en ai personnellement ramassé beaucoup, surtout dans l'arrière-pays aixois, aussi dans les Alpes d'Haute-Provence, mais aussi dans le Languedoc. Et l'origan aussi, c'est commun, donc il a une caractéristique d'être un tout petit peu plus délicat, plus âcre, et c'est celui qui est le plus adapté pour l'usage officinal.
Et Lorraine Thomas, ma réalisatrice, qui a des origines marseillaises, me rappelle effectivement qu'avec le thym, le serpolet et le romarin, l'origan fait partie
des bouquets, des herbes de Provence.
Pour ça, il faut aller à l'herboristerie du Père Blaise, quartier Noailles, à Marseille. Vous avez des vraies herbes de Provence marseillaises et là, vous allez voir que l'origan s'exprime. Deuxième espèce, qui n'est plus la vulgare ou la commune.
L'origan méridional, qui est l'origanum heracleoticum ou d'Héraclée, le nom du une ville grecque, ou aussi on l'appelle hirtum, c'est l'origan grec, avec des feuilles qui sont un tout petit peu plus poilues, des fleurs souvent blanches, et c'est une espèce qu'on retrouve dans les pouilles, surtout dans la région du Salento, mais aussi dans certains coins de la Sicile, dans les Balkans, a souvent une saveur vive, très reconnaissable, et là on retrouvera des notes de réglisse, de laurier, de poivre, de fenouil, il est beaucoup plus aromatique que l'origan commun.
D'accord.
Ensuite, en Italie, on l'appelle l'origano siciliano, c'est l'origanum onites,
c'est
la même espèce qu'on trouve en fait en Grèce, en Turquie, en Crète, en Asie, et aussi dans la Méditerranée orientale.
Oui.
Et on en trouve en grande quantité, c'est magnifique, dans le théâtre grec de Syracuse et aussi à Catane. Et il est utilisé énormément par les populations arbéresches qui sont arrivées il y a vraiment des siècles dans la région du nord de la Calabre et qui a un goût...
C'est des populations d'origine albanaise,
Albanaise.
Qui se sont installées dans le sud de l'Italie, les arbéresches, c'est ça?
Les arbéresches. et se sont installés dans le sud de l'Italie. Et cet origan a un goût un peu plus amer et persistant. Après, nous allons donc origanum majorana, qui est la marjolaine, qui est une espèce d'origan.
Donc ça veut dire que la différence, Samir, entre l'origan et la marjolaine, c'est que la marjolaine est un origan. Mais tous les origans ne sont pas forcément des marjolaines, c'est bien ça?
C'est bien ça, c'est un bon résumé. Ouais. Mais c'est très drôle aussi de voir qu'il y a les noms vernaculaires, à quel point ils sont en fait plein de confusion. Typiquement, la marjolaine, on va l'appeler l'origan des jardins. Mais il y a certaines personnes qui vont appeler également l'origan la marjolaine sauvage.
Ouais.
Donc c'est dire à quel point, enfin voilà, tout, en fonction des endroits, en fonction des lieux, en fonction de la culture, ben encore une fois, comme vous avez dit, on y perd son latin.
Et il y a une autre confusion intéressante. On sait à quel point un certain mélange d'épices d'origine levantine a du succès dans notre cuisine en ce moment, c'est le za'atar. Alors, et le za'atar, on dit souvent, chez les Libanais, les Syriens, que c'est du thym. Là encore, confusion, alors c'est pas avec la marjolaine, mais c'est confusion entre le thym et l'origan, si je comprends bien, non?
Alors là, c'est un origan qui est un peu différent de tous ceux...
Mais c'est un origan.
Alors, le za'atar du Proche-Orient, ce sera un origanum syriacus.
D'accord.
Et l'origanum syriacus est très proche, effectivement, du thym. Et effectivement, il y a un amalgame. Et même, à la limite, sur place, c'est un nom... Enfin, ils utilisent le même nom, za'atar, pour décrire à la fois cet origan... Et le thym qui s'en rapproche un petit peu.
D'accord. Chez Encore, vous vendez de l'origan.
Tout à fait.
Quelle réaction des chefs que vous fournissez sur cette herbe un peu exotique pour nous autres Français?
Mais justement, en fait, comme c'est de l'origan français, c'est un origan qui est un peu moins capiteux, un peu moins présent que l'origan qui vient du reste de la Méditerranée. C'est un origan qui est un peu plus élégant et qui laisse la place justement aux autres produits de l'assiette.
J'aime bien un peu plus élégant. Il est en train de se faire visiter du regard.
Non, mais pardon, ici, enfin, j'ai apporté un origan grec et vous verrez qui est très présent, très très mentholé et qui est hyper intéressant pour les infusions, par exemple. Mais c'est vrai que dans un plat, ça va peut-être prendre le pas sur le reste de l'assiette.
Car l'origan, alors on parle de l'Italie évidemment, ouais. Il y a aussi des tonalités grecques. Dans votre livre, l'origan, 10 façons de le préparer aux éditions de l'Épure, vous nous confirmez, Samir, que c'est l'herbe aromatique culte de la cuisine hellénique.
Tout à fait. Ils l'utiliseront, comme on l'a dit dans l'introduction, aussi bien avec de la feta, de l'huile d'olive. Dans de nombreux plats, on peut la retrouver. Donc c'est vraiment, en fait, ça va compléter le sel, le trio. Enfin voilà, ça fait partie du triptyque sel, poivre, origan finalement en Grèce.
Et comme par hasard en Méditerranée, l'origan va très bien avec l'huile d'olive. De l'huile d'olive, il y en a partout. L'origan va très bien avec les fromages frais. Vous évoquiez la feta, mais feta. En Italie, on se prive pas non plus.
Avec,
hein, ricotta.
Avec la ricotta, bien sûr, et la mozzarella. Et puis bien sûr, ça va tellement bien avec les tomates. Tomates fraîches, tomates cuisinées, tomates séchées. Quand on fait la tomate séchée, ça c'est un arôme fort. On met toujours de l'ail et de l'origan. Et on dit en Italie, bien sûr, que l'origan sa cantare sulla voce spiegata, donc qui chante à tue-tête, à voix haute.
L'origan ne peut pas faire autrement que chanter fort.
Que chanter très fort, parce qu'il est souvent associé justement à d'autres ingrédients avec, très puissants, avec beaucoup de personnalité, comme l'ail, les anchois, mais aussi beaucoup les agrumes, comme la salade d'orange en Sicile, par exemple.
Et oui, je me souviens, on en a fait une ensemble.
Ah oui,
on en a fait une ensemble. Pardon. Oui. Alessandra, on parlait justement de cuisine et d'ail. Tiens, ça tombe bien, ça sent carrément l'ail dans le gobelet qui est sous nos côtés. J'invite tout le monde autour du plateau à mettre son nez dedans et franchement, c'est un voyage. C'est un voyage et c'est une tradition, c'est une sauce italienne.
C'est une sauce italienne, ça s'appelle le salmoriglio. C'est une sauce qui est très, très, très utilisée, surtout en Calabre, mais aussi en Sicile, dans le sud de l'Italie. C'est une sauce qui est faite à partir d'huile d'olive, de l'ail, de l'origan, du persil plat, frais, du sel, du poivre. Parfois, on met aussi un petit peu de piment. Il est très dense en herbe. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'origan. Et ça se utilise surtout pour les marinades, surtout dans le poisson, mais aussi dans les brochettes d'agneau, pour les viandes blanches, le poulet, la dinde, et surtout pour faire mariner les poissons, mais aussi pour les grillades.
Donc c'est à la fois une marinade et une sauce.
Et une sauce.
D'accompagnement pour des viandes, des poissons.
On fait griller le poisson ou la viande et ensuite on assaisonne avec le salmorille.
Dominique, le voyage s'est bien passé ?
Ouais, très bien, très bien. Effectivement, alors, il y a une petite touche d'ail, mais c'est surtout le citron qui va un peu tempérer le caractère exubérant de l'origan. Et puis, puisque vous avez parlé d'un répertoire, je crois qu'il est assez large. Moi, je vis, j'entretiens un rapport avec la mer. Là, tout de suite, je pense aux palourdes. Une petite goutte
et oui.
sur la palourde crue.
Absolument. Il a raison.
Ah bah oui.
Juste une viande blanche, un palourde,
enfin, les moules, par exemple. Les moules aussi, bien sûr.
Ah ouais,
les fruits
très,
de
très
mer,
bien.
Ça va très
et
bien.
Et c'est étonnant que dans cette sauce, le salmorillo.
Salmorillo.
Et bien finalement, une herbe sèche comme l'origan se marie avec une herbe fraîche,
ou
le
l'herbe
basilic.
Fraîche, le... comme le persil. Ça laisse donc ce côté un peu plus végétal, là que, où l'origan frais perd un petit peu pendant le séchage.
Eh bien, c'est super simple à faire, c'est délicieux et c'est un voyage garanti. Il y a également une recette dans nos assiettes, celle de Samir. Alors là, on est vraiment dans l'univers méditerranéen. Preuve que l'origan se marie très bien avec toutes les viandes, y compris les viandes blanches.
Tout à fait, les viandes blanches, même également, enfin, tout ce qui est agneau. Donc voilà, là j'ai décidé de décliner avec un poulet au four, très simplement. On a fait une petite marinade, ce qui ressemble vachement, en fait, finalement, à ta marinade, Alessandra. C'est une marinade avec du citron, origan, échalote. Et donc voilà, et puis au four pendant une demi-heure. Et plein de fraîcheur. Plein de fraîcheur et d'aromatique.
Qu'est-ce que c'est?
C'est délicieux, puis ça vient bien s'imbiber dans la viande du poulet. On a presque envie de rajouter encore un peu la sauce d'Alessandra en
oui,
plus.
Non, mais en même temps, vous êtes vraiment à proximité, si je puis dire.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Cette recette, enfin moi, c'est une recette que tu viens de faire, mais que j'évoque très souvent. Le poulet, pratiquement, je ne le vois que marié avec de l'origan.
En fait, on a tous les deux les pieds dans le bassin méditerranéen.
Et oui.
Avec l'huile d'olive, le citron, l'origan, c'est vraiment, enfin, ces produits emblématiques de tous les pays du pourtour. De la mer Méditerranée.
Justement, Samir, vous avez des origines marocaines, on le sait, puisque vous êtes intervenu de nombreuses fois à ce micro. Comment, quelle relation les Maghrébins, et les Marocains en particulier, ont avec l'origan frais ou sec?
Alors, au Maroc, on va l'utiliser sur des salades. Notamment, vous savez, on sert beaucoup de petites salades à côté des plats principaux au Maroc, des salades totalement végétariennes, enfin, de légumes végétariennes. Mm-hmm. On va l'utiliser également énormément pour les grillades. En infusion, parce que finalement, au Maroc, on ne boit pas que du thé à la menthe, on boit d'autres infusions également. Et également, l'infusion d'origan est une infusion qui est assez populaire. Et finalement, dans un plat aussi qu'on retrouve, un plat qui rejoint justement cet univers un peu d'antan de l'origan, qui est la rfissa, qui est, alors pour le faire très, très rapidement, des sortes de crêpes en lanière,
oui.
dans lesquelles qu'on va mélanger avec de la viande et plein d'épices, dont de l'origan. Et donc voilà, c'est vraiment un des anciens, des vieux plats marocains.
Et ces différentes espèces qui poussent au nord de l'Afrique?
Alors oui, tout à fait, bien sûr. Et même chose, enfin encore une fois, il y a une diversité. Donc on aura de l'origanum vulgare, donc assez classique.
Le commun.
Le commun, mais qui s'est adapté et qui a du coup beaucoup plus de corps que le français. Et il y a également l'Origanum compactum qui est lui aussi plein d'huiles essentielles qui est extrêmement intéressant plutôt pour la pharmacopée.
Car évidemment, l'origan puise son aromatique de son espèce, de sa famille botanique, mais également du terroir sur lequel il pousse. Hein. Un origan, ça dépend évidemment de la nature du sol, ça dépend du soleil, ça dépend de tout un tas de paramètres qui peuvent faire varier les kénotypes. Et donc, l'aromatique, est-ce que... Samir.
Juste, mais en fait, effectivement, l'aromatique est complètement différente. On peut trouver l'origan, on verra vers Isazi qui va nous le dire un peu partout en France, mais avec des notes complètement différentes. Et l'origan, en fait, c'est une sorte, si je peux me permettre, d'artiste maudit qui a besoin de souffrir pour s'exprimer. Et comme a dit Van Gogh, je ne peux pas supprimer la souffrance, car c'est elle qui fait s'exprimer le plus énergétiquement les artistes. Ben en fait, l'origan, c'est une sorte d'artiste.
Vous êtes en train de nous dire que l'origan, qui est une plante adaptée au climat sec, a besoin de souffrir pour exprimer ses huiles essentielles.
Exactement.
Vous comparez l'origan à Van Gogh?
Oui. À Van Gogh, à Modigliano, à tous ces artistes qui ont pu souffrir et qui se sont exprimés.
Et vous avez l'air, vous opinez du chef?
Oui, j'opine,
Dominique.
Parce que Zazie, hors micro, a fait le parallèle avec la vigne, et c'est très vrai. La vigne a besoin, d'une certaine manière, de souffrir pour exprimer le meilleur d'elle-même.
Eh bien, vous êtes dans la vigne. On y reste avec vous, cher Dominique Hutin. C'est l'heure de votre chronique.
On va déguster sur France Inter.
Alors, avant de vous parler de vin, quand même, je trouve qu'on a beaucoup parlé, à raison, de l'origan. On a peut-être un peu négligé sa cousine, la marjolaine, qui est considérée comme aphrodisiaque. Voilà. Non, je ne vais pas m'épancher sur le sujet. Je sais, François-Régis, que vous me l'avez confié tout à l'heure, mené sur ce terrain des investigations assez poussées. Donc, on va laisser la marjolaine tranquille pour l'instant. Pour ma part, moi, je vais m'attacher plutôt à d'autres affaires de cœur. Elles sont un peu moins glamour, parce que les miennes sont cardiovasculaires. Voilà. L'autre origan. Non, non, je suis très, très, très sérieux. Je vous parle de médecine. Je suis ceinture noire, deuxième dan en culture, en médecine générale. Flocon d'argent en cardiologie.
Attendez, juste une parenthèse. En parlant de médecine, quand même, preuve que l'origan est une plante sacrée, chère Alessandra, vous me disiez un truc incroyable en préparant cette émission.
Oui, bien sûr, parce que le blason de la faculté de médecine de Paris est représenté par un écusson sur fond bleu avec trois cigognes qui portent dans leur bec un rameau d'origan. Donc, comme quoi, c'est une plante qui sauve, une plante qui soigne.
La cigogne qui apporte des bébés, vous voyez, on boucle la marjolaine, etc. etc. On y est, plein dedans. Alors, l'origan, lorsque je l'évoque, c'est lorsqu'il est séché, justement, il partage avec certains vins rouges tanniques, j'insiste bien, certains vins rouges tanniques, des vertus qui sont mises en relief par ce que les médecins ont appelé en 1991 le French Paradox, que vous avez entendu parler.
Et oui.
De cette histoire-là, alors pour le résumer, on s'est aperçu que dans le sud-ouest, là où dans les assiettes voisines, et des foie gras, et des magrets, et des confits, etc., c'est-à-dire, quand même, des lipides, des matières grasses, saturées, eh bien, paradoxalement, dans le sud-ouest, on y souffrait beaucoup moins de maladies cardiovasculaires, avec un taux d'infarctus 4 fois moins élevé que dans les États-Unis. Et quelle est la clé de cette histoire-là? Eh bien, simplement, c'est une consommation, j'insiste bien sur le mot, modérée, c'est-à-dire 2 à 3 verres de vin par jour, de vin rouge tannique, parce qu'il se distingue en richesse de polyphénol. Et ces polyphénols ont un effet protecteur, spécialement si cette consommation de vin rouge tannique est, je le redis, modérée.
On est plutôt sur un ou deux verres que 2 ou 3, mais...
Bon, chacun gère son rapport à l'alcool, mais en tout cas, ça a un effet d'autant plus bénéfique si cette consommation de vin rouge tannique a lieu pendant le repas. Ça, c'est expressément important. Alors, parmi ces cépages rouges du sud-ouest, il y en a un qui est spécialement doué. C'est pas le plus connu. Il s'appelle la négrette. Et la négrette, c'est la colonne vertébrale d'un vin qui s'appelle le fronton.
Et oui.
Que vous allez cueillir juste au nord de Toulouse. Vraiment, il entretient une grande proximité avec la ville. Et ce fronton, c'est une espèce de représentation du sud-ouest, mais c'est aussi l'un de ses paradoxes. Parce que dans la région du sud-ouest, souvent, les vins qu'on apprécie là-bas, on les apprécie parce qu'ils sont musclés, parce qu'ils sont tanniques, parce qu'ils sont généreux, etc. Et la négrette du fronton, elle, c'est tout en finesse qu'elle exprime son discours. On est vraiment sur un autre registre. J'en ai goûté 45 pour vous. Vous allez les trouver tous en ligne, commentés avec les coordonnées, les prix aussi.
Il a pratiqué le French Paradox.
C'est la médecine qui me donne des ailes. Alors, et ce sont essentiellement ces 45 des rouges, mais il faut enregistrer le fait que l'appellation produit aussi un grand volume de vins rosés. Tous ces vins sont riches donc en polyphénol. Et puis, surtout, ce que vous allez pouvoir remarquer à la lecture de ce tableau de 45 vins, c'est le rapport qualité-prix-plaisir qui est insensé. Vous avez des bombes, je le dis à dessein, vous avez des bombes autour de 10 euros, même en deçà. Après, vous pouvez trouver des montées en gamme autour de 15-20 euros, mais à chaque fois, tout ça est couplé à une espèce de magnifique dépaysement gustatif. C'est un autre univers, c'est un autre sud-ouest, c'est tout à fait autre chose, à des prix extrêmement abordables. J'en ai mis trois registres différents dans vos verres. Vous avez par exemple le château Buissel avec son Pinot Saint-Georges. Pinot Saint-Georges, c'est l'autre nom de la négrette en fait. 14,60 €. Un peu plus structuré, le château Le Roc et son Don Quichotte. Là, c'est négrette avec un petit peu de Syrah. On a 40% de Syrah, 13,50 €. Château de Belaïgue avec le Vieux-Chais, 10,50 €. J'aurais pu en citer plein. Plaisance, Pénavert, Roumaniac et un tout nouveau venu qui s'appelle Terre Fauve. Donc vraiment, un terroir à défricher. Allez-y. Allez foncer à Toulouse. Et la qualité de ces vins, en fait, c'est la conjonction évidemment de plusieurs facteurs. Ensoleillement, qui est nécessaire à la maturité, 2200 heures par an. 2200 heures par an. Une pluviométrie qui est assez basse.
Et ça ne va pas s'arranger.
Et non, bah oui, il y a une tendance forte qui s'installe, je crois. Mais ce qui est intéressant à Fronton, c'est que les nuits sont fraîches l'été. Et donc, forcément, ça va tempérer le caractère des vins. Vous avez trouvé des expressions différentes selon les terroirs, vous avez trouvé aussi selon les assemblages, parce qu'on trouve des Cabernet Sauvignon donc qui vont structurer les vins, des Gamay qui au contraire vont les assouplir. Et puis, une dernière chose quand même pour la table, on va déguster. On a la saison du chou farci qui arrive bientôt, foncez-y, pensez à la négrette, c'est extrêmement bon. Ou alors si vous êtes un peu plus aventurier, un Gravelax de Cabillaud, et un pesto de Cresson, ça va vous parler ça je pense Alessandra.
Absolument.
Ça j'ai pisté ça au restaurant Le M à Ramonville-Saint-Agne, dans le 31, à côté de Toulouse. Donc, ça fonctionne très bien. 1er octobre, ouverture des Saint-Jacques. Les rosés de Fronton vont s'y prêter. Puis, la négrette aime aussi beaucoup le chocolat. Voilà. Et donc, en conclusion de cette histoire-là, il y a un livre pardon, que j'ai mis sur notre site qui s'appelle « Les vertus du vin » du docteur Jean-Pierre Riffleur qui documente tout ça. Vous pouvez tenter après de cumuler et chocolat, origan et vin rouge.
Avec modération.
De négrette. Là, c'est l'immortalité qui se profile. Mais je vous rappelle juste un tout petit truc. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. C'est de Woody Allen.
Je ne sais pas si c'est psychologique ou un conditionnement, mais j'ai le sentiment de ressentir. Ou les plats de Samir, le poulet de Samir, mais j'ai des notes d'origan dans le fronton que vous m'avez versé dans nos verres.
C'est possiblement possible, pour
oui,
répondre techniquement.
En tout cas, c'est même assez drôle. Pascal de Moselle nous fait une réaction vraiment très drôle avec le salmorillo. Les Italiens ont copié les Argentins qui pratiquent la chimichurri. Ça, c'est quand même intéressant.
Ah oui, c'est intéressant, mais avec il y a énormément d'Italiens en Argentine aussi. Mais surtout, c'est qu'il y a de l'origan.
Dans la chimichurri.
Dans la chimichurri, mais aussi en Amérique du Sud.
C'est ça.
On la trouve en Argentine et au Mexique.
Très bien, on continue à parler origan après une petite pause musicale. On va évoquer l'origan au rayon des desserts. Et puis on va faire un petit pas de côté, on va partir vers la Normandie. J'ai l'impression qu'elle ne va pas être si loin de chez vous, notre cher Zazie Tavitian. Derrière la console, Laurent Thomas, Benjamin Troncin, Fabrice Rivaud. On prend la mer avec la grande Sophie. Bonne journée sur France Inter. Une herbe au parfum envoûtant au menu dont on va déguster. Il y a plein de questions d'auditeurs alors qu'on pensait que ce sujet était effectivement assez, comment dire, petit bout de la lorgnette. Mais en réalité, c'est une herbe totalement universelle, Zazie Tavitian.
Il y a énormément de messages. Alors, nos auditeurs et nos auditrices adorent l'origan, ça déjà. Et ensuite, on voit qu'il vient de plein de parties du monde parce qu'il y a Preciosa qui me dit par exemple l'origan est l'aromate indispensable du pozole, célèbre poté mexicaine à base de gros maïs appelé cacao azintlé et qui peut contenir de la viande de porc, de la dinde, du poulet.
Bah ça j'apprends quelque chose.
Oui. On me dit aussi qu'en Algérie ça s'appelle le zaatar.
Ah, vous avez l'air d'être d'accord.
Oui, tout à fait.
Donc on n'est pas loin de zaatar non plus. Hein.
En fait on l'appelle à la fois zaatar ou mardakouch. En fait il y a les deux noms en arabe d'Afrique du Nord.
D'accord.
Et il y a Cédric qui nous demande si l'origan, on peut mettre de l'origan frais dans les sauces, car lui, il a entendu que ça donnait un goût un peu amer.
Non, si on le met en fait en fin de cuisson, comme on mettrait du basilic frais aussi, ça va donner le parfum et pas du tout l'amertume. Par contre, l'origan séché, on peut le mettre dès le début de cuisson dans les plats, ça supporte très bien la chaleur.
Cher Alessandra, je suis très intrigué par la deuxième recette de votre livre,
ah oui.
10 façons de préparer l'origan aux éditions de l'Épure. Alors, je ne vais pas jouer la surprise parce qu'on doit bien avouer qu'on a vécu cette expérience ensemble quand nous avons voyagé en Calabre, pays, province magnifique, montagneuse, qui moi personnellement me fait penser à la Corse.
Absolument,
Où pousse beaucoup l'origan.
Où pousse énormément, énormément l'origan. Et c'est là qu'on nous a accueillis d'ailleurs avec un bouquet d'origan à notre arrivée.
Absolument, et on a assisté à une véritable bénédiction culinaire.
Oui, il s'agit de la dromsa et c'est une pâte typique de la communauté, comme on disait, on en parlait tout à l'heure, à Arberech, installée dans les montagnes calabraises depuis le Moyen-Âge. C'est un rite ancien au cours duquel la farine qui est allée sur une planche est bénie avec un bouquet d'origan imbibé d'eau et tamisé pour obtenir en fait des grumeaux irréguliers. C'est un mariage après qui se termine après dans une savoureuse sauce à l'origan dans laquelle les pâtes cuisent.
Le cuisinier prenait vraiment un bouquet d'origan qui ressemblait à un fouet, trempait ça dans de l'eau, bénissait la farine étalée sur le plan de travail, on obtenait des petits grumeaux qui récupéraient avec un tamis.
À mesure, dans un tamis.
C'était comme des petits gnocchis qui avaient donc le parfum naturel de l'eau.
Ça faisait comme des graines de couscous irrégulières en fait.
Et tout ça ensuite mijoté dans une sauce tomate. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs de cuisine. Vécu effectivement en Calabre dans cette trattoria dont j'ai oublié le nom. Ça, je suis désolé, mais...
C'était une trattoria d'origine Arberech aussi, où on est allé avec notre vigneron Jean-Pierre.
Non, c'est pas ça. J'ai plus le nom.
Et moi aussi, c'est pareil.
On va mettre ça pour nos auditeurs, parce que si on l'occasion de voyager,
sur le site.
Une expérience vraiment pesons nos mots, bouleversante.
Je vais sûrement le trouver dans mon Instagram, je vais le ressortir.
D'ici la fin de l'émission.
Ah oui.
Ok, super. Bon, on va s'éloigner un peu de Calabre, on va remonter légèrement vers le nord, on va frôler le domicile de Dominique Hutin, direction le Cotentin, la Manche, avec Zazie, et oh, surprise, il se pourrait qu'il y ait de l'origan.
On va déguster. Sur France Inter.
Je le disais, un endroit tout à fait atypique pour cuisiner de la marjolaine et de l'origan, chère Zazie.
Alors oui, alors je sais François-Régis, je vous avais dit que je profiterais de mes vacances en Grèce pour vous ramener un sujet sur l'origan.
Oui.
Bon, finalement, j'étais un peu occupée à autre chose.
Oui, j'ai vu sur vos stories cet été.
Mais figurez-vous que j'ai quand même trouvé de l'origan et de la marjolaine dans un coin beaucoup plus au nord et beaucoup plus inattendu.
Ce train arrivera en gare de Villedieu-les-Poêles. Assurez-vous de ne rien oublier à bord.
Alors voilà, j'étais donc près de Villedieu-les-Poêles.
Villedieu-les-Poêles, les poêles à frire.
Voilà, comme les poêles à frire.
Ça s'écrit pareil.
Oui. C'est le pays du cuivre.
Voilà, c'est ça, il y a toute une tradition de cuivre là-bas. J'étais dans la commune de Tessy, au lieu dit du Ménil-Ours, donc c'est en Normandie dans la Manche. Et je me suis rendue à la ferme de l'Ours, où Sandra Vionnet et Louis Touré cultivent des plantes aromatiques en bio sur 11 hectares, des plantes qu'ils transforment ensuite en eau florale, en huile essentielle et en sirop, et qu'ils proposent notamment pour l'usage culinaire. Louis Touré, il est fils d'agriculteur céréalier dans l'Orne. Il a décidé de ne pas reprendre la ferme de son père car il n'était pas en phase avec le modèle agricole productiviste. Et Sandra Vionnet, elle a fait des études de chef. Elle a travaillé en cuisine avant d'arrêter car les conditions étaient trop mauvaises. Et je le précise car c'est des choses qu'on entend encore trop souvent chez les femmes chefs.
Ça, c'est vrai.
Et le couple, il produit aujourd'hui donc de la graine jusqu'à l'huile. Et avec Sandra, on a été se promener en début de semaine, c'était lundi, dans leur champ.
Depuis le mois de juillet, on fait pratiquement que de la récolte, donc le désherbage a été un petit peu moins assuré en cet été. Donc là, on va reprendre et il y a, comme tu vois, beaucoup de travail à faire. Là, on a du bleuet qui est en train de reprendre, donc c'est notre annuel. Alors notre marjolaine à coquille est juste ici. On l'appelle marjolaine à coquille parce que comme tu vois, elle fait des bourgeons qui ressemblent à des coquilles. Et il faut sentir. Parce que son odeur est très douce par rapport à un origan. Alors c'est une odeur qu'on retrouve souvent dans tout ce qui va être un peu produit d'entretien, soin du linge.
Ici, vous avez combien de variétés de plantes ?
Alors ici, on a une quinzaine de plantes. On va avoir des plantes annuelles comme on a vu le bleuet. On va avoir des vivaces comme de la camomille romaine, c'est celle qu'on fera le plus. Les menthes, là on est passé devant la menthe bergamote. On va aller voir la menthe poivrée qui est plus loin. On a des ligneuses comme le thym, l'origan. On a de la sarriette des montagnes, de la lavande, du lavandin. On distille aussi des essences d'arbres, comme le laurier noble. Ça, c'est de la mélisse. Et ici, on a donc notre origan. C'est une odeur assez forte. On reste sur quelque chose de vert. C'est un petit peu poivré.
Et est-ce que c'est si simple en fait à cultiver sous ces climats?
Alors, on éprouve des difficultés alors vis-à-vis du gel. Là, l'origan, moins que la marjolaine, c'est une plante qui est vivace, qui ressort tous les ans, qui est assez haute, donc qui prend le dessus sur l'enherbement qui peut se faire. Et du coup, on va lui faire une taille par an. Et là, où on voit, où on est en Normandie, c'est qu'on va ressortir très peu d'huile essentielle, je pense, par rapport à un origan qui se trouve dans le sud de la France.
Et l'origan, vous le distillez en entier?
Oui, on va venir distiller tiges, feuilles et fleurs. Allez voir les alambics. Ça va?
Là, on est devant l'alambic. Il y a Louis qui est en train de retirer les camomilles sèches. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça fonctionne?
On va donc mettre nos plantes dans l'alambic. On va bien les tasser. Il y a de la vapeur d'eau qui va venir passer dans nos plantes pour extraire les poches d'huile essentielle. Cette vapeur d'eau chargée en huile essentielle passe dans un circuit de refroidissement. Une fois refroidi, j'ai deux matières qui découlent de ma distillation.
Donc avec le même alambic et la même distillation, tu fais et l'eau florale et l'huile essentielle. Les deux, ça dépend des plantes bien sûr, tu peux t'en servir pour cuisiner?
Les deux, oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va travailler l'origan en eau florale.
On va en cuisine?
Allez, c'est parti.
Alors voilà, là on a un petit gap spatio-temporel parce que devant vous, vous venez de la manger, François-Régis, il y a la terrine de légumes confits et gelée d'origan que nous avons cuisiné avec Sandra. Donc c'est très simple à faire, il s'agit de faire confire des légumes coupés en tranches à la longueur. Donc dans celle-là, il y avait des aubergines, des courgettes, des poivrons. Ensuite, on chemise un plat à terrine, on alterne les couches de légumes. On a rajouté du chèvre fermier local de Normandie.
Du chèvre frais.
Et on a fini en recouvrant à bord avec une gelée à l'eau florale d'origan et agar-agar. Mmh. Et puis quelques heures au frais et c'est bon. Et je vous ai aussi cuisiné une vinaigrette avec de la marjolaine, un gazpacho de tomates, pain et eau d'origan. Et une chantilly que vous avez devant vous avec le sirop de géranium rosa.
Dominique ?
Elle est très douce, cette vinaigrette. Elle est un peu moutardée. Ça fait penser à ces moutardes anglaises qui sont un peu en rebande avec des arômes. Et ça fonctionne assez bien, oui.
Totalement. Mmh. Oh là là, c'est bon.
Et ce que me disait Sandra, et ce qui est intéressant, c'est que les eaux florales et les huiles et les sirops, ça fait vraiment partie de son garde-manger parce que les plantes aromatiques, on en a un peu parlé, mais elles ont aussi une saison. Et sous cette forme, ça permet de pouvoir les utiliser toute l'année.
Voilà. Bah, vraiment, bravo, un sacré super travail. Vous nous rappelez le nom de ces producteurs extraordinaires?
Alors, c'est la Ferme de l'Ours, donc c'est fermedelours.fr, je vous remets toutes les infos sur le site. Et c'est vraiment un jeune couple à soutenir car ils travaillent très bien et très dur. Et ils sont aussi confrontés en ce moment à des problématiques comme l'augmentation du prix du fioul qu'ils utilisent pour leur alambic. Voilà, donc il faut les soutenir.
Qu'est-ce qu'il est bon ce gazpacho, légèrement ardent, avec effectivement des parfums un peu sauvages. Incroyable. Et oui, je m'en coupe la voix. Et d'ailleurs, Zazie vous a passé des petites fioles bleues. Mmh. On se croirait chez l'apothicaire. Mmh. Qu'est-ce que vous avez, Alessandra?
Moi, j'ai une eau florale d'origan commun.
Oui.
Donc, ça a une odeur, un arôme presque sucré, presque de miel. Oui. On rappelle aussi que l'origan, c'est une plante mellifère, aussi, au passage.
J'ai eu très utile à nos amis les abeilles.
Et ensuite, au goût, c'est délicat, mais c'est végétal, c'est un tout petit peu poivré, on sent la menthe et la mélisse, et un peu l'hysope. Ouh. Aussi, que je ramasse souvent aussi dans le sud de la France.
De dégustation. Samir, qu'est-ce que vous avez de votre côté?
Moi, de mon côté, j'ai de l'eau florale de marjolaine, extrêmement délicat, réconfortante,
Il y a ce côté,
paraît-il. Ce que j'aime bien, effectivement, moi, c'est ce côté. La marjolaine, elle est beaucoup moins oligane que l'origan, si je peux me permettre.
Waouh !
Et là, c'est vraiment le cas. C'est vraiment toute la douceur et le côté agrume qui ressort. Et un côté, oui, légèrement ardent. Enfin, c'est très délicat. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà.
Et vous aviez envie d'évoquer également le Japon?
Ah oui, j'avais envie d'évoquer le Japon, parce que l'origan, en fait, je me suis rendu compte, c'était l'anagramme de Nagori.
Ouais.
Et Nagori est un mot japonais que j'ai découvert grâce à Ryoko Sekiguchi, qui a écrit un magnifique livre.
Et c'est extraordinaire chez POL.
Oui, et qui Nagori, alors pour tout vous dire, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est la nostalgie de la saison qui passe.
Mm-hmm.
Et je trouve que justement, avec l'origan, comme je vous l'avais dit, comme c'est ce côté ensoleillé qu'on a toute l'année, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, je vais vous lire un petit paragraphe.
Ah, carrément. Hein. Il prend les manettes de l'émission. Allons-y.
Rapido. Non, parce que c'est un beau texte.
Japonais,
on regrette la saison qui s'en va. Et le goût de ce fruit en vient à refléter, à incarner la saison. Ou plus précisément, la saison en fin de vie. Au pas de la porte de la saison, ou passer déjà la saison suivante. Demeurant un instant avec ce fruit resté faire ses adieux sur le seuil, nous songeons à la saison passée, et la nostalgie nous serre la gorge.
C'est beau ça, mais ce qu'il y a d'intéressant avec l'origan, c'est que c'est une plante séchée que l'on peut cueillir en gros sac au moment de la floraison estivale, et que l'on peut parsemer, peut avoir des pincées d'été,
finalement tout au long de l'année. Tout le long de l'année, absolument. On les garde, ben voilà, juste devant nous avons les sachets en tissu dans lesquels on garde l'origan qu'on a ramassé dans le sud de l'Italie.
Sachant que c'est bien d'avoir en général l'origan accroché à sa branche.
Accroché à sa branche, moi je préfère, et ensuite on le défait juste au moment de s'en servir.
Il nous reste une poignée de minutes pour évoquer vos deux recettes très surprenantes. Ouais, l'origan se faufile décidément partout, y compris au chapitre sucré, avec une recette que moi je connais déjà et que j'adore, qui est dans le livre d'Alessandra. Elle est également sur le site internet de On va déguster. Bah, c'est un gâteau aux poires et à l'origan. Racontez-nous.
Oui, c'est cette tarte que je prépare à partir de farine, du sucre, des poires. En cette saison, j'ai fait avec des poires Guyot fondantes, délicieuses. De l'huile d'olive, des œufs, soit du mascarpone, de la ricotta ou de la crème fraîche épaisse, zeste de citron et éventuellement zeste d'orange et de citron en saison, un petit peu de levure. Et ça fait une tarte que j'aime beaucoup avec cet arôme.
Franchement, ce gâteau est dingue.
Enfin, poire origan, c'est quand même un mariage assez exceptionnel.
Et en dessert, on a tous les parfums. Alors, oui. Est-ce qu'on peut parler de maquis, de garrigue, de végétation méditerranéenne avec ses notes à la fois mentholées, un peu animales, balsamiques. Et en même temps, on a le fondant de la poire. Extraordinaire.
Oui, c'est déjà visuellement, il est très beau. J'avais envie de le manger depuis le début de l'émission. Et effectivement, le fait que ce soit avec ces notes de garrigue, ça fait un dessert qui est ultra gourmand et léger, enfin qui enlève à la fin du repas. Voilà, très frais.
Dominique. Final très 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 fraîche. Moi, je serais même tenté d'utiliser votre sauce du début. Donc, pour nous redire le même.
Non mais
d'en peindre avec un petit pinceau de pâtissier, d'en peindre une poire, parce que je trouve que c'est démoniaque.
Mais décidément, on est entouré de poires. Poètes en ce dimanche. Et Samir, il se débrouille pas mal non plus, je peux vous dire, parce que Samir, il a aussi tenté l'origan en dessert et ça donne
des petites madeleines. Très gourmande, très sûre, enfin très voilà, très douce, avec effectivement de l'origan. Et l'origan ici va apporter du relief, de la personnalité aux madeleines. Et je trouve que voilà, ça se marie très bien avec le beurre fondu presque noisette. Ça répond justement à ce caractère du beurre noisette avec la personnalité très forte de l'origan.
Qui résiste bien au caractère grillé du dessus de la madeleine.
Oui. En plus, enfin voilà, on a vraiment les notes et vous trouverez la recette bien sûr sur le site.
Et Marcel Proust salive dans sa tombe. Délicieuse. Franchement, c'est extraordinaire quand même.
Extraordinaire.
Ça vaut des points ça aussi, hein.
J'aime beaucoup. Et puis c'est bien. Moi, j'utilisais l'huile d'olive comme matière grasse pour rester dans le thème, mais avec le beurre, ça va très bien aussi, le beurre de la madeleine.
On a encore des questions d'auditeurs, cher Alessandra. Quelqu'un nous demande si l'origan sur la pizza, c'est vrai que c'est une habitude. Un peu galvaudé, qu'on a vu beaucoup dans les pizzerias, de préférence souvent un peu mauvaise, on va dire. Hein. Il y a la fiole d'origan qui vient du monsieur qui se décarcasse.
Si cache-misère, peut-être.
Si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Un peu cache-misère, j'allais le lire. Saupoudrer l'origan, monsieur nous demande si en Italie, c'est une tradition de mettre de l'origan séché sur la pizza.
Absolument. C'est en fait l'herbe qu'on mettrait quand il n'y a pas le basilic. Et surtout, en Italie, on le met dans la pizza marinara. Où on met de la tomate, de l'ail et de l'origan. C'est vraiment les ingrédients traditionnels. Et en plus, nous faisons une sauce qui s'appelle sauce à la pizzaiola, c'est-à-dire qui rappelle donc la pizza, dans laquelle, comme on parle avec sauce de tomate, ail, origan, huile d'olive bien sûr, où on met souvent des escalopes de veau, ou bien, moi je mets aussi de la scamorza fumée, juste grillée.
La pizzaiola, si ça aussi c'est une super belle adresse. Attendez, dites-nous que la recette est aussi en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster.
Elle est en ligne sur France Inter, absolument.
Toute petite réaction, chers Zazie.
On nous demandait aussi de nous éclairer sur la Nepitacorse, mais ce sera peut-être le sujet d'une prochaine émission.
Alors la Nepitacorse, c'est un peu un faux ami, on parle de marjolaine sauvage, mais effectivement on va en reparler très bientôt, car nous serons bientôt au festival Arte Mare à Bastia, dans 15 jours, pour l'enregistrement d'une émission le vendredi, je sais plus, mais on va vous tenir au courant très rapidement. L'origan, 10 façons de le préparer, c'est le livre que vous publiez publiée aux éditions de l'Épure, ma chère Alessandra. Merci d'être venue. Merci beaucoup, Samir. Vous revenez quand vous voulez. Vous savez que le studio vous est ouvert. La semaine prochaine, on reçoit le grand pâtissier Pierre Hermé. Oui, Pierre Hermé, à l'occasion de la parution de ses mémoires. Elvira Masson et Antoine Gerbel seront dans les fauteuils des chroniqueurs. Zazie et Dominique, à la prochaine.
Par exemple.
Allez, à dimanche prochain. Si vous avez encore faim.